bon rolling, baby.
Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Un plaisir de le retrouver ce soir. C'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est avec nous pour le podcast dans son entièreté. 60 minutes de bonheur avec cet être qui est tout simplement incroyable. Comment ça va, Nick?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Pour la Fédération canadienne des contribuables, bon, de notre côté, dans l'émission du matin, on la connaît très bien puisque j'ai la chance de te jaser chaque lundi. On se parle une fois de temps en temps dans Marceau Soir. Pour les gens qui t'écoutent pour la première fois, qu'est-ce que la Fédération canadienne des contribuables fait pour le payeur de taxes?
Ben, on le représente. Du moins, on ose faire ce que trop peu de gens font, malheureusement, c'est de parler au nom de cette majorité silencieuse qui paye constamment plus d'impôts et de taxes pour recevoir toujours un peu moins de la part du gouvernement. Donc, essentiellement, on est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 1990. On a bientôt 36 ans d'existence cette année. Et essentiellement, notre motto est très simple. On se bat pour des baisses d'impôts, on se bat pour moins de gaspillage gouvernemental, puis on se bat pour un gouvernement plus responsable, imputable, transparent. Donc, essentiellement, c'est un combat de longue haleine. On est présent sur à peu près toutes les tribunes pour toutes celles qui nous invitent. On est présent sur des comités parlementaires, on dépose des mémoires prébudgétaires, on participe à des consultations, puis on va aussi souvent passer à travers les budgets pour décortiquer ce que les gouvernements tentent de vous faire passer par la porte en arrière. Donc, essentiellement, c'est ça notre but. On est présent dans toutes les provinces. Moi, je représente bien sûr le Québec depuis 2022. Puis, je couvre aussi un peu les affaires fédérales, puisque je suis aussi accessoirement le gars bilingue. Donc, je suis là pour couvrir les événements, tout ce qui se passe au niveau fédéral comme au niveau provincial Québec.
Ouais.
Donc, c'est effectivement un long combat parce que des fois, il y a comme tout un processus de des fois, tu sais, comme il faut qu'on informe d'une part la population, puis après ça, il faut la mobiliser, puis après ça, il faut qu'on s'engage à obtenir le changement qu'on mérite. Puis c'est pas toujours facile aussi au Québec parce qu'on. On sait comment les politiciens sont très réticents à baisser les taxes, notamment, ou à baisser les impôts. Mais pour l'instant, je peux vous dire que les résultats commencent à payer.
Tu sais, point de vue plus personnel de mon côté, je trouve que la Fédération canadienne des contribuables fait une christie de belle job à la grandeur du Québec. Toi, tu fais une belle job au Québec. J'allais dire à la grandeur du Canada, toi, tu fais une belle job au Québec. Mais idéalement, dans un monde idéal, là, vous devriez même pas exister. C'est les politiciens qui devraient faire votre job, c'est-à-dire d'utiliser chaque denier public qu'on leur envoie à bon escient. Là.
Oui, puis ben, il existe effectivement plusieurs mécanismes qui pourraient être mis en place pour faire en sorte quand même que le gouvernement s'autorégule, soit plus responsable par lui-même. Ouais. On le mentionne souvent, par exemple, au Québec, ce serait bien d'avoir un directeur parlementaire du budget, notamment, parce que ça permettrait justement d'aller plus loin dans les présentations des états financiers du Québec, parce que on l'a vu à plusieurs reprises quand Éric Girard, le ministre des Finances, présente un budget ou présente une mise à jour économique, ou quand, par exemple, on avait Christine Fréchette à l'économie ou Fitzgibbon avant elle, qui présentait un projet d'investissement, on va dire, par exemple, dans Northvolt, pour rappeler que ça, ben, on avait comme une version des faits qui n'était pas toujours celle de la réalité. Là. Je donne un exemple. Par exemple, pour Northvolt, on disait que le retour sur investissement allait arriver après 9 ans. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on allait investir des contribuables allait revenir après 9 ans. Puis finalement, ben, le directeur parlementaire du budget à Ottawa avait évalué tous les investissements qui avaient été faits dans la filière électrique canadienne, que ce soit l'investissement dans Honda, Volkswagen, Stellantis, parce qu'il y en a eu beaucoup dans les dernières années.
Ouais.
Ben, il avait découvert finalement que le retour sur investissement n'allait pas arriver de si tôt. Donc, il existe des mécanismes comme ça qui peut forcer la transparence, puis qui peut forcer justement un regard plus transparent sur tous les types d'investissements que le gouvernement va faire avec notre argent, trop souvent sans notre consentement. Il y a aussi des vérificateurs généraux. Il y a aussi quand même des journalistes qui tu sais, moi, je le dis très ouvertement, il y a vraiment un pouvoir important chez les médias qui joue aussi un certain jeu de chien de garde de la démocratie. Malheureusement, des fois, trop peu souvent, dans le sens que, comment dire, on manque des fois d'environnement médiatique qui permet justement de couvrir davantage ce qui se passe dans le milieu politique et ce qui se passe avec notre argent. Mais oui, comme tu l'as dit, dans un monde parfait, on ne devrait pas exister. Non. Dans un monde parfait, le gouvernement devrait bien gérer notre argent, ne devrait pas en prendre trop. On devrait avoir de la transparence, on devrait avoir l'heure juste sur ce qui se passe avec nos impôts. Mais malheureusement, je veux dire, on ne vit pas dans un monde parfait.
C'est souvent quand on vieillit et qu'on acquiert de l'expérience qu'on se rend compte des fois qu'on était totalement dans l'erreur. Moi, j'étais persuadé quand j'étais jeune qu'un politicien travaillait pour le peuple, il était élu par le peuple. Et puis le premier ministre, ben lui, c'était comme le bon père de famille qui allait s'occuper de chaque denier qu'on lui envoie pour redistribuer aux bons endroits. Et en fait, c'était le bon père de famille, mais quand même, c'était notre employé. Je pensais que le premier ministre ou la première ministre, quand j'étais jeune, c'était notre employé qu'on mettait en place pour travailler puis bien distribuer notre argent. Malheureusement, en vieillissant, on se rend compte que ces gens-là agissent comme roi et maître une fois qu'ils deviennent au pouvoir. Et les dépassements de coûts, ça semble pas leur faire un pli, pardonne-moi l'expression, Nicolas, mais ça semble pas leur faire un pli sur la poche quand ils perdent de l'argent avec le système Phoenix, exemple, au Canada. Ou l'argent qu'on a perdu avec le fameux système, là, ça clique. Bon, on a fait une commission de peine et de misère là, pour apprendre que c'était épouvantable tout l'argent qui se dépensait, mais ça semble pas être dur pour eux de perdre tout cet argent-là. Tandis que quand ça sort de mes poches, là, perdre de l'argent, moi, là, je la travaille, mon argent. Perdre de l'argent, ça me fait suer. Mais pour eux autres, quand ils perdent l'argent des autres, ça ne semble pas leur déranger.
Non, parce que ce n'est pas leur argent. Donc, effectivement, ça dérange toujours moins quand c'est l'argent des autres qu'on perd. C'est comme, je me souviendrai toujours là, du fameux clip, là, je pense, au Bye Bye 2023, là, où est-ce que on avait, ou je pense en 2024, là, on trouvera la date exacte, là, mais on voyait entre autres François Legault puis Fitzgibbon, qui était interprété par, bien sûr, par d'autres acteurs, puis qui rentrait dans un casino, puis qui faisait des paris sur la table, tu sais. Mais essentiellement, c'est ça, c'était pas leur argent, mais au final, c'est exactement ce que c'était. Quand le gouvernement fait un investissement, puis tu sais, là, on prend l'exemple de la CAQ, mais ça pourrait être un exemple du PQ ou du PLQ dans le passé, parce que c'est une longue tradition qu'on a au Québec de penser que le gouvernement peut intervenir puis sélectionner le bon joueur dans un marché, puis l'encourager avec notre argent, puis comme par un miracle, ben, on va avoir un retour sur investissement, puis il va avoir les retombées économiques qui vont être favorables. On a eu cette promesse-là de toutes les sauces, puis trop souvent, ben, c'est parce que justement, le mauvais choix est fait, puis de deux, ben, il n'y a personne qui paye la conséquence, qui paye pour ces conséquences-là autrement que les contribuables eux-mêmes. Donc, on pourrait parler de tous les projets informatiques, on pourrait parler de toutes les fois où est-ce que le gouvernement au Québec, puis on s'est arrivé assez souvent juste avec Investissement Québec, qu'on s'est imaginé qu'on était les dieux du marché avec l'argent des contribuables, puis qu'on s'est carrément planté. Malheureusement, il n'y a jamais de pénalité pour les gens qui prennent ces mauvaises décisions-là, puis on peut aller plus loin avec la fameuse commission Galant. Il n'y a personne qui va finir en prison, il n'y a personne qui va perdre sa pension, qui va perdre son salaire, ou qui a été démis de ses fonctions réellement. Il y a eu des conséquences politiques, mais tous les gens, les fonctionnaires responsables de ce fiasco-là étaient déjà à la retraite. Je veux dire, il n'y a personne qui paye pour ça au final. Fait que je peux comprendre pourquoi les gens perdent un peu parfois confiance dans les institutions quand ils disent « on vient de se taper une commission d'enquête après avoir vu un dépassement de coûts phénoménal ». Puis il n'y a personne qui paye pour. On se fait juste, OK, on se fait livrer un résultat de l'enquête, de la commission Galant, mais c'est quoi la suite? Bien, la suite, c'est ce qu'on ose dire, puis on se dit quand même une genre de pensée magique, c'est que bien, à cette heure, on va pouvoir éviter ça. On va pouvoir éviter que ça se reproduise. Le problème, c'est qu'au Québec, on a quand même genre 1000 projets informatiques en cours au niveau du gouvernement québécois, puis il y en a quand même une trollée là-dedans qui a déjà des dépassements de coûts. Donc, prétendre que la commission Galant puis les résultats vont nous permettre d'éviter que ça se reproduise, c'est farfelu. Mais c'est ça, il faut plus d'imputabilité dans le gouvernement parce que sinon, c'est garanti qu'on est dans un cercle vicieux.
Dans tes rêves les plus fous, là, t'as-tu déjà pensé à quelque chose qu'on pourrait mettre en place qui toucherait l'argent du politicien? Moi, c'est quelque chose auquel je pense depuis plusieurs années. De un, je trouve que les salaires en politique ne sont pas assez élevés. Donc, attirer l'élite de notre société en politique, c'est extrêmement difficile. Christian Dubé, quoi qu'on en pense, là, Christian Dubé a accepté une perte de salaire pour aller comme ministre de la Santé à la Coalition Avenir Québec. Il était chez Cascade à l'époque. Il gagnait plus $1 million par année. Par la suite, il s'est présenté en politique. Il a passé dans le secteur de Lévis. Malheureusement, pour lui, son parti politique n'avait pas pris le gouvernement. Donc, il avait tout simplement quitté. Ça avait occasionné une partielle qui nous a coûté à peu près 600 000 $. Et lui, il avait été à la Caisse de dépôt et de placement où encore là, il gagnait plus $1 million par année. Et par la suite, il est revenu à la Coalition Avenir Québec. Il a remporté ses élections et la Coalition Avenir Québec a remporté le gouvernement et a été élu ministre. Mais des Christian Dubé qui gagnent des millions, là, qui acceptent de venir... Là, il y en a qui vont être insultés, mais gagner des petits salaires pour ce type d'individu-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour ce qui est des salaires, je les bonifierais dans certains portefeuilles, bien entendu, pour attirer l'élite de notre société. Mais un gars comme Pierre Fitzgibbon, qu'on paye du jour au lendemain, là, tiens, Pierre, tu vas gagner 3 millions par année, puis tu vas être ministre, puis tu vas prendre des décisions qui touchent l'argent des Québécois. Si on donne des amendes sur les mauvaises décisions, tu penses-tu qu'on en prend autant qu'on en a pris durant l'ère Fitzgibbon-Legault?
Ben moi, c'est sûr que je suis d'accord pour toute forme de pénalité qui fait en sorte que le politicien, il pense deux fois avant de gaspiller notre argent, clair, ou avant de faire comme Fitzgibbon l'a fait, à créer un fonds de développement économique puis jouer au Monopoly avec.
Des prêts pardonnables à n'en plus finir, tu sais.
Ben, exactement. Puis on, déjà que c'est une pratique qui est totalement ridicule. Puis malheureusement, on dirait qu'il y a comme personne qui veut l'abolir, cette pratique-là. On veut la limiter, mais c'est déjà supposé être une pratique qui est exceptionnelle. Mais pour venir à ta suggestion, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pénaliser les politiciens? Moi, c'est sûr que de mon côté, j'irais dans l'autre sens. Moi, je trouve que les politiciens font trop d'argent. Puis je pense que.
Ça dépend lesquels,
effectivement. Mais même avant d'aller là, je me dis, comment est-ce qu'on applique une pénalité qui peut être uniforme pour tous, tu sais, qui peut s'appliquer de la même manière pour tout le monde? Parce qu'on s'entend que les chances que le ministère de l'économie, essentiellement, il sert surtout à faire des subventions. Il ne sert pas à grand-chose de plus. Fait que les chances qu'il y ait une mauvaise décision qui soit prise par un ministère qui est dans une position de toujours subventionner à outrance, il y a plus de chances que ça arrive que venant d'un ministère comme le ministère de l'Habitation, par exemple, ou le ministère de la Famille, où est-ce que les chances qu'il y ait un dépassement de coûts phénoménal sont assez limitées, on va dire. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'appliquer une pénalité de cette manière-là, mais moi, j'ai imaginé quelque chose il n'y a pas si longtemps. J'imagine que c'est un rêve de fou, là. mais je pense que ça s'applique. Puis la solution est la suivante. Les politiciens à l'Assemblée nationale ne devraient pas empocher d'augmentation de salaire tant qu'il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Je sais que ça a l'air farfelu, mais je me dis qu'à la fin... La raison pour laquelle on a des déficits, c'est parce que le gouvernement il dépense trop, essentiellement. Puis pourquoi il dépense trop? Parce qu'il y a du gaspillage, entre autres, mais aussi parce qu'on a perdu le contrôle sur la fonction publique au cours des dernières années, parce qu'on a pris des mauvaises décisions en termes d'investissement, où est-ce qu'il y a eu l'explosion des coûts en infrastructure. On a misé trop sur des nouvelles infrastructures plutôt que de la maintenance. Bref, il y a un paquet de réponses là-dedans, mais la principale, c'est qu'on dépense trop. Donc, essentiellement, tous les politiciens, qu'ils soient à l'opposition, qu'ils soient au gouvernement, peu importe leur position comme telle, devraient être heurtés par ça. Ils devraient se dire, nous, tant sur tant qu'on refile une facture aux générations futures parce que notre gouvernement dépense trop, on va se garder une petite gêne avant d'empocher une augmentation de salaire. Donc, ça pourrait être un mécanisme intéressant. Le seul problème, c'est que, bon, pour que ça se mette en place, il faut que le gouvernement lui-même s'engage à le faire. Puis là, ben, ce même gouvernement-là vient quand même nous déposer un énième budget en creux rouge avec un déficit de 8,6 milliards. Fait qu'on dirait qu'ils n'ont pas vraiment le goût de se pénaliser. Puis c'est drôle parce qu'ils vont empocher une augmentation de salaire dans une semaine. Donc, n'en reste que ça serait une solution parmi d'autres. Mais oui, on pourrait penser à mettre des amendes ou même à couper la pension d'un élu si, par exemple, il s'avère qu'il a pris des décisions qui allaient au-delà de son travail ou est-ce qu'il a tout simplement pas respecté le code de déontologie de l'Assemblée nationale ou le code d'éthique, pardon. Donc, tu sais, c'est des genres de mesures comme ça qui pourraient être mis de l'avant. Malheureusement, ça prend toujours une volonté politique du gouvernement en place. Puis, ben, avec toute la gang de scandales qu'on a vus sous la CAQ au cours des dernières années, on dirait qu'ils n'ont pas le goût de se pénaliser davantage avec un mécanisme comme tel. Mais ça serait nécessaire.
Okay. Mais comment tu fais pour attirer un génie de la finance ou une génie de la finance avec un salaire qui avoisine 140 000 $ par année?
Bien, le salaire de 140 000 $, ou plutôt, là, on est peut-être à 146 000, peut-être plutôt 147 000 à partir du 1er avril prochain, ça, c'est l'indemnité de base. Ça, c'est vraiment le salaire pour le député d'arrière-ban qui n'a pas de responsabilité parlementaire. À partir du moment que tu es leader parlementaire ou que tu es ministre, ça monte. Ça monte à 250 000. Là. On est quand même à un quart de million. C'est, je pense, il n'y a personne qui va pleurer pour celui qui fait « Ah oh, non, tu n'as plus 500 000, tu fais 250 000 à la place. » c'est, je veux dire, dans le commun des mortels va se dire c'est quand même un salaire qui garde dans le 1% des mieux rémunérés au Québec, si pas au Canada, à 250 000 par année.
Oui, mais le génie de la finance va faire 3, 4, 5 millions par année. Ça ne l'intéresse pas d'aller faire 4 ans à se faire chier au gouvernement?
Tu as tout à fait raison, mais en même temps, tu sais, l'argument qu'on a mis de l'avant, c'est de dire qu'il faut qu'on augmente les salaires des politiciens pour attirer des meilleurs politiciens. Puis après ça, je m'en vire de bord. Je me dis, OK, mettons qu'on accepte la logique. Là, tu t'en vires de bord, tu regardes l'Assemblée nationale, tu regardes ce qu'ils livrent ces temps-ci, tu regardes les résultats de l'état des finances publiques. Tu dis, si c'est ça pour les meilleurs de notre société, je pense qu'on devrait changer de stratégie. Parce que ça, à date, on n'a pas tout à fait là, la crème de la crème, mettons. Mais n'en reste que, je suis d'accord qu'il faut avoir quand même certains avantages mis de l'avant pour attirer des politiciens, ne serait-ce que d'avoir un salaire qui est adéquat. Mais d'un autre côté, je pense qu'il devrait avoir aussi des pénalités en contrepartie plus sévères pour faire en sorte que les gens ne vont pas en politique que pour faire de l'argent. Bien sûr, je ne pense pas qu'au Québec, il y a vraiment des gens qui vont en politique juste pour faire de l'argent, parce que comme tu l'as mentionné, moi, normalement que tu as un MBA et que tu as un bon background en finance, tu peux trouver une bonne job dans une institution financière puis faire pas mal plus qu'un politicien. Mais la raison pour les politiciens, en fait, les gens qui vont en politique ne sont pas supposés être là pour une rémunération. En fait, ils sont supposés être là en acceptant une chose. Une notion qu'on a perdue de vue depuis plusieurs années, même, je dirais, à la grandeur de l'Occident, pas juste au Québec, c'est la notion de sacrifice. C'est la notion de dire, moi, je m'en vais servir les intérêts de la nation, je m'en vais servir les intérêts des Québécois, et j'accepte que pendant une période donnée, de 4, 8 ans, 12 ans, je ne ferai pas le même salaire. Je vais faire beaucoup moins que ce que j'aurais pu faire. C'est un coup d'opportunité. Mais d'un autre côté, je laisse une marque dans l'histoire. Je laisse une marque dans ma communauté. Je vais contribuer. On va se souvenir de moi quelque part. Je n'aurai peut-être pas une statue dans un parc, mais j'aurais laissé de quoi derrière qui va être là pour le plus grand nombre. Puis en même temps, j'ai droit à une pension après. Parce qu'il faut quand même dire que les policiers, après 8 ans de service, ont droit à une pension qu'ils peuvent empocher à 65 ans.
Après 6 ans. C'est après 6 ans.
Ben ça, c'est ça, c'est la Chambre des communes.
Deux mandats, 6 ans. C'est la même chose pour ce qui est de l'Assemblée nationale.
OK, parfait. J'oublie toujours le petit détail. Mais il me semble qu'il y avait... Parce qu'il faut essentiellement être là deux mandats. Dans
exact.
Ou être réélu deux fois plutôt.
Voilà.
Mais t'as raison, c'est ça. Fait qu'au final, je veux dire, on a accès à quand même un bon package. Donc on, je veux dire, il n'y a aucun emploi au Québec que vous avez droit à une pension après 6 ans de service. Aucun. Fait que déjà, faut quand même remarquer. Je pense à la limite, la pension pourrait être à la limite bonifiée. T'sais, c'est rare que je m'engage à dire on devrait faire un anane pour les politiciens, mais je me dis, à la limite, sois compensé pour tes années de sacrifice. Mais ne sois pas compensé en the spot. On va te compenser quand on aura des résultats. Puis encore là, je reviens à la charge avec les histoires de conséquences pour les politiciens qui prennent des mauvaises décisions et des décisions qui étaient clairement évitables. Je veux dire, ces personnes-là ne devraient pas avoir droit à la pension en contrepartie. Donc, on peut bonifier une pension, mais on peut la mettre encore plus, conditionnelle à plusieurs éléments. On devrait effectivement s'attendre à une meilleure performance de la part des élus. Mais malheureusement, on ne traite pas la politique comme telle. Puis ben c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on mérite présentement.
Oui. Puis là, dans quelques jours, janvier, février, mars, avril, au mois d'avril, le 1er avril, qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a le poisson d'avril. Tu veux-tu nous faire un poisson d'avril pour ce qui est des salaires des députés?
Oui, on a un poisson d'avril qui s'en vient à tous les niveaux. Il y en a un qui s'en vient à la Chambre des communes. Les salaires augmentent là-bas. Pour l'indemnité de base, augmente de pas loin de 8 700. On a aussi à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Les salaires augmentent encore une fois à ce niveau-là. On a le salaire de la gouverneure générale. On a l'augmentation de la taxe, en fait, je pense, la taxe d'assises sur l'alcool au niveau fédéral qui augmente de 2 %. Donc, bref, il y a plein d'augmentations qui arrivent le 1er avril. C'est comme si tout le monde s'est comme engagé à dire, hey, savez-vous quoi, le 1er avril, pendant que le monde se fait des poissons d'avril, on va livrer des mauvaises nouvelles, puis bon, on va penser que c'est une blague. Puis c'est effectivement le cas. Le 1er avril prochain, le salaire des députés, du moins l'indemnité de base pour les députés à l'Assemblée nationale, augmente de 3,3 % à peu près. Donc, ça représente 4 750 $ de plus. Puis bien sûr, le montant est double ou à peu près là, pour tous les autres. Comme par exemple, un ministre va faire plus parce que son salaire est basé sur l'indemnité de base plus fois 75 %. Dans le cas du premier ministre, c'est 105 % ou 110 %. Donc, c'est comme s'il y avait deux fois l'indemnité de base. Donc, eux, ils profitent deux fois plus de cette augmentation de salaire. Mais bref, ça fait en sorte que le politicien à l'Assemblée nationale, depuis 2023, son salaire a augmenté de pas loin de 44 %.
Parce qu'ils ont eu une augmentation de 30 % à l'Assemblée nationale.
Oui, puis ils ont eu ensuite une augmentation d'un autre 7 % à peu près, un peu plus que ça, je pense, en 2025. Puis, parce qu'on n'avait pas eu en 2024, il y a eu comme eu une genre de pause le temps que le nouveau mécanisme de rémunération entre en cours. Puis après ça, on arrive en 2026, on a une autre augmentation de salaire. Puis l'année prochaine, on va en avoir encore une. Parce que les augmentations de salaire sont basées sur la moyenne des augmentations observées dans la haute fonction publique. Donc, au niveau des principaux dirigeants des sociétés d'État, des ministères, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on se base à ça. C'est pas sur l'inflation. Parce que l'augmentation de salaire est supérieure à l'inflation, il faut le mentionner. Puis c'est pas non plus sur un quelconque autre mécanisme comme l'augmentation moyenne des salaires observés dans, je sais pas, le secteur parapublic. C'est vraiment, on aligne l'augmentation des salaires des politiciens à celle des mieux rémunérés de la société québécoise, du moins dans la fonction publique, et c'est rendu automatique. Donc, il n'y a plus aucun vote qui est fait à chaque année là, pour déterminer si le salaire va augmenter. Donc oui, il y a eu l'ajustement de 30 % qu'on disait que c'était un rattrapage, qui était un peu faux, en fait, parce que tout le long que ça a été mis de l'avant, cette idée-là d'augmenter le salaire de 30 %, on se disait « Ah, ben c'est parce qu'il faut qu'on se rattrape, ça fait 20 ans que le salaire des députés n'a pas été revu à la hausse. » Mais c'était faux, parce que le salaire était déjà indexé, mais il était indexé un mécanisme qui était moins intéressant en termes d'augmentation. C'est plus, vraiment plus proche d'inflation, l'augmentation du salaire. Ça faisait en sorte que ça augmentait peut-être pas assez rapidement à leur goût. Fait qu'on essaie de donner un boost en se disant, comme on le mentionnait un peu plus tôt, pour essayer d'attirer des meilleurs politiciens à l'avenir, on se dit, ben, si le salaire est plus intéressant, ben, les candidatures sont plus intéressantes. Ce à quoi je reviens dans quelques instants d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que 44 % d'augmentation de salaire, c'est quand même assez fou quand tu y penses pour ne serait-ce qu'une seule position, sans nécessairement que les contribuables aient l'impression d'en avoir plus pour leur argent quand ils regardent la classe politique. Mais
surtout pour un gouvernement qui dilapide les surplus qui avaient été laissés en place par le parti qui était en place précédemment. Surtout pour un gouvernement qui nous fait perdre énormément d'argent avec des décisions un peu louches. Surtout pour un gouvernement qui est incapable d'arriver avec l'argent qu'on lui donne, qui nous crée des déficits. C'est incroyable de se voter des... Tu sais, c'est comme s'ils se disaient, on est tellement bon, alors que c'est pas ça pantoute, qu'on va se voter un 40% d'augmentation de salaire. Ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, quand on y pense sérieusement, est-ce que ça va attirer plus de monde en politique, cette augmentation de salaire?
Je pense que oui.
Ben, c'est drôle, moi, j'ai eu des discussions avec plusieurs partis politiques dans les dernières semaines, puis j'ai continué à en avoir aussi dans les prochaines semaines, parce que mon but à la FCC aussi, c'est un rôle non-partisan, donc je suis en toute transparence, je ne suis pas membre d'aucun parti politique, puis je veux que les idées des contribuables, je veux que les intérêts des contribuables soient représentés dans toutes les partis politiques. Moi, je veux que tous les partis parlent de baisse de taxes et de baisse d'impôts aux prochaines élections. Fait que moi, c'est ça la victoire ultime pour nous à la Fédération. C'est pas d'avoir un parti conservateur qui est au pouvoir, c'est d'avoir, ou d'avoir un parti libéral ou autre. Non, c'est d'avoir un parti qui vous représente.
Ouais.
Puis moi, ce qu'on m'a dit dans les différents partis que j'ai rencontrés, puis je taire les noms, mais on me dit qu'on rush pour trouver des candidats ne serait-ce que de qualité. Quand je dis de qualité, c'est de dire des personnes qu'on nommerait ministre du jour au lendemain, parce qu'on présente, on le présente dans une conférence de presse, puis on dit ça va être mon bonhomme, là, ça c'est mon gars des finances du ministère des Finances. Ça va être là, ma ministre de la Santé. Tu sais, on dirait que les partis, peu importe le parti politique, ils ont de la difficulté à aller en chercher. Fait que qu'on me dise, ah ben, en augmentant les salaires, on va attirer plus de candidatures. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Peut-être que ça va changer parce qu'on s'entend, le déclenchement des élections, c'est quand même dans 5 mois. Puis la variation qu'il va y avoir peut-être dans les sondages d'ici ce temps-là, vous pouvez attirer plus de candidatures. Mais pour l'instant, on est loin de l'engouement qu'on aurait pu voir, par exemple, en 2014 ou en 2018. Ou est-ce qu'il y avait comme la volonté de changement qui était comme bien implantée dans la population? Il y avait un sentiment qui était partagé par tout le monde. Fait que peut-être que ça attirait plus de monde en politique, mais là, on dirait qu'il y a comme c'est drôle parce que présentement, les gens ne se garochent peut-être pas vers la politique parce qu'ils savent ce qui les attend. Puis ça va au-delà du salaire. C'est aussi tout le travail colossal que le prochain gouvernement va devoir faire pour faire du ménage dans les finances publiques et dans la fonction publique du Québec. Il n'y a pas si longtemps, là, je pense que c'est Francis Veil de la presse qui parlait que le prochain gouvernement va devoir augmenter les impôts. Je considère que c'est une très mauvaise conclusion, puis j'espère à 100% que ça n'arrivera pas, puis on va se battre pour pas que ça arrive. Mais y a-t-il un politicien qui se dit qu'une fois qu'il va arriver au pouvoir et qu'il va augmenter les impôts, que sa règle de 4 ans va être le fun par la suite? Non, ça va être vraiment l'enfer. Puis l'inverse, mettons que les politiciens disent, regarde, nous, on ne va pas augmenter les impôts, on va couper dans les finances, nous, on va faire le ménage pour vrai, on va couper dans les structures, on va couper dans les ministères, on va couper carrément des ministères, on va s'attaquer à des sociétés d'État, Investissement Québec, là, oh, merci, bonsoir. Tu sais, mettons, là, on a plutôt cette vision plus on fait le ménage. Attendez-vous pas à ce qu'ils se fassent lancer des fleurs là, par les gardiens du temple que sont les syndicats pendant les 4 ou 8 années qui vont être au pouvoir. Ça va être une méchante raide de char, peu importe qui va se faire aider, qui va former le prochain gouvernement, pour qui il va avoir toute une responsabilité, c'est de faire le ménage après les 8 années de la CAQ, qui, on va se dire franchement, sont tout sauf de quoi célébrer. Là. Je veux dire, il y a peut-être quelques éléments que je peux souligner qui valent la peine là, de mentionner, mais pour le reste, C'est tout un challenge qui attend les politiciens de la prochaine législature. Donc, tu sais, finalement, est-ce que augmenter le salaire, c'est nécessairement juste ça qui attire les politiciens? Ou c'est aussi le goût du défi, puis des défis où est-ce qu'on va laisser un impact positif? Ouais.
Idéalement, l'option numéro 2 que tu nous présentes, j'aurais peut-être une autre, je t'écoutais parler, j'aurais peut-être une autre hypothèse à avancer là, pour ce qui est d'attirer des grands génies. Les cinq dernières années, on te prend ton année la plus payante dans les 5 dernières années, puis on te l'offre sur un plateau d'argent, puis tu nous démontres ce que tu es capable de faire, entre autres pour les finances. Je pense que c'est un poste qui est tellement stratégique qu'on devrait être en mesure d'offrir un salaire qui est beaucoup plus élevé, parce que les gens qui sont en finance gagnent des salaires beaucoup plus élevés. On pourrait faire la même affaire pour les 125 députés de l'Assemblée nationale. Là. Tu sais, vos 5 meilleures années, puis vos 5 dernières années avec votre T4 à l'appui, votre meilleure année, nous autres, on vous donne ça pour 4 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient appelés par ça. Parce que sérieusement, on a beau penser ce qu'on veut des politiciens. Oh, il y en a qui ne travaillent pas fort. Il y en a qui travaillent fort du matin jusqu'au soir. C'est de l'investissement 7 jours sur 7. Tu mets ta famille de côté. Tu vas dans des soupers spaghettiques du monde qui ne t'intéresse pas pendant tout, mais tu n'as pas le choix de le faire pour ta job. Les soirées où tes enfants vont faire des spectacles à l'école, des fois, tu es demandé pour aller faire une présentation de ciel et remettre un chèque à gauche et à droite. Faut qu'il y ait une compensation monétaire, là, Nick, là, pour assez substantielle pour des gens qui sont capables de très bien gagner leur vie dans notre société.
Ben, je suis d'accord avec la prémisse. Je dirais que par souci d'équité, par contre, ça, je vais mettre comme ma tuque de Catherine Dorion. Là. J'ai pas de tuque, malheureusement, à portée de main. Mais en politique, là, d'habitude, je suis plus conservateur fiscal, plus cartésien. Là, on m'a rentré plus d'un côté un peu plus populiste. Mais en politique, on veut pas juste des futurs ministres des Finances. On veut pas que les 125 soient que des gestionnaires. J'imagine qu'on veut aussi qu'il y ait des gens de la population de tous les niveaux qui s'impliquent. Parce que, je veux dire, à la fin de la journée, ce que j'ai pu observer en politique au cours des dernières années, c'est que les meilleurs politiciens ne sont pas nécessairement ceux avec les PhD, là, avec les doctorats puis avec les masters en comptabilité. Là. Les meilleurs politiciens, parfois, ça peut être des gens qui ont un background pas sobre, là, j'essaie de trouver le ton, là, mais le nom, mais essentiellement qui viennent d'un background moins riche économiquement. Mais mettons que ces personnes-là, ils vont en politique, puis ils faisaient un salaire de 60 000 $ par année avant d'aller en politique. Lui, il n'est pas du tout avantagé dans une certaine mesure d'aller en politique.
Ça, c'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Moi, je parle pour des postes stratégiques comme le ministre des Finances. Tu ne mettras pas Catherine Dorion comme ministre des Finances, là. Elle a aucune.
Non.
On sera assez fou pour le faire. On est au Québec, là. Mais. Tu peux pas mettre là. Tu veux pas qu'elle gère ton argent, là, parce qu'elle va considérer que c'est son argent et l'argent des autres aussi, là.
Je suis d'accord, peut-être à la limite, les postes, les salaires des ministres peuvent être revus à la hausse.
Ben oui.
Mais si je reprends ton idée, par contre, je vais devoir m'opposer à 100% à ce qu'il y ait une pension qui soit livrée aux ministres.
Ah, j'ai entièrement d'accord.
Si tu deviens ministre, peut-être que tu as un meilleur salaire, mais en contrepartie, tu ne devrais pas avoir un coussin financier sur lequel retomber si tu prends des mauvaises décisions.
Parfaitement d'accord. Puis il devrait avoir des pénalités monétaires pour la personne qui investit l'argent des Québécois puis qui se plante, tu sais.
Là, on est d'accord.
Je suis un peu fou, mais tu sais. Il y en a eu des bons ministres. Là, François Bonnardel, c'est un bon ministre qui est capable de bien expliquer ses portefeuilles. C'est un ancien gérant de garage. Il y avait un garage, il y avait un Vitro Plus, François Bonnardel. Geneviève Guilbeault, son étoile a pâli dans les derniers mois, les dernières années, mais c'était une porte-parole du coroner. Elle était attachée de presse. Là. Elle gérait toutes les nouvelles qui sortaient du bureau du coroner. C'est comme ça qu'elle a été découverte. Bon, elle est excellente en communication, mais j'irais jamais laissé mon portefeuille. Là. Jamais. Donc, pour trouver quelqu'un de qualité, moi, il faut que tu sortes des universités ou il faut que tu sortes des grandes entreprises puis tu leur dises, regarde, Tu faisais comment? Oh, 3 millions, ben ce sera ça, tu vas être mon ministre des Finances, merci, bonsoir. C'est tout.
Sauf que, écoute, le payroll de l'Assemblée nationale va exploser pendant quelques temps.
Pas en tout. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui gagnait beaucoup moins dans leur vie avant de devenir politicien. Là. Fait que si tu appliques ça pour tout le monde, il y en a qui vont gagner moins que le 145 000 que tu nous as annoncé tout à l'heure. Là. Tu sais, Catherine Dorion, là, elle n'est plus là, mais Catherine Dorion, avant de rentrer en politique, n'avait jamais fait plus que 20 000 piastres par année.
Puis là, elle faisait, je pense, 100 000 à la fin de son mandat.
Elle faisait 100 quelques mille. Puis elle nous a dit, savez-vous quoi? Si je ne me présentais pas un matin à l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui s'en rendait compte. Là.
Ben ça, c'est la triste réalité de bien du monde. Il y a 125 personnes à l'Assemblée nationale, mais finalement, c'est surtout le caucus des ministres qui attire l'attention à chaque fois qu'ils prennent des décisions puis qu'on les voit à la télévision, mais les 100 quelques autres, on les voit rarement. Puis c'est pas toutes des plantes vertes, contrairement à ce que certains pourraient penser. Il y en a beaucoup qui sont très impliqués dans leur comté puis qui sont sur des dossiers qui sont très pertinents. Même en contrepartie, c'est vrai que leur situation financière s'est clairement améliorée, mais on voit rarement l'envers de la médaille qu'ils ont quand même aussi fait des sacrifices à la même hauteur que les autres ministres pour se faire une place en politique et servir les intérêts de la nation québécoise.
C'est leur problème.
Oui, je sais.
Tu gagnais 50 000, tu veux devenir politicien, ben tu vas gagner 50 000 avec une petite augmentation chaque année. Tu gagnais 3 millions, ben tu vas avoir ton 3 millions avec une petite augmentation chaque année. Mais les gens qui devraient être dans des postes stratégiques devraient être des gens... De qualité, c'est pas le bon mot, mais des experts dans leur domaine. Mais c'est ça, c'est ma vision des choses. Avec la Fédération canadienne des contribuables, on parle avec Nick Gagnon ce soir, qui est le directeur à Québec pour la Fédération des canadiennes des contribuables. Contribuable avec un S.ca pour les gens qui veulent plus de détails sur cette belle fédération-là. Vous étiez à Ottawa dans les dernières heures, M. Gagnon. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, dans cette ville exceptionnelle où ça bouge comme pas possible?
Ah, mon Dieu! Écoute, j'ai fait deux capitales nationales dans les dernières semaines. On s'est vu à Québec la semaine passée, puis là, j'ai fait Ottawa. Mon Dieu, que c'était un downgrade, l'Ontario! Mon Dieu! Non, pour vrai, c'est pas... Ottawa, ça reste une belle ville, mais mon Dieu, Québec, c'est juste pas comparable. Compare la haute ville de Québec au centre-ville d'Ottawa, puis je veux dire, on n'est pas à la même place pantoute. Mais oui, j'étais au Parlement hier avec mon collègue Franco Terrazano, qui est notre directeur fédéral, et essentiellement, on était présent en comité parlementaire pour parler des taxes carbone, ou plutôt de la taxe carbone industrielle, qui est toujours en place, parce que, pour ce qui se passe au niveau fédéral, on se rappelle que le 1er avril 2025, la taxe carbone pour les consommateurs est disparue. Depuis ce temps-là, au Québec, on est les seuls avec une taxe carbone, sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas aussi simple. C'est la taxe carbone pour les consommateurs qui est disparue au niveau fédéral, mais celle qui est refilée aux industries, elle est toujours en vigueur. Et on a encore de la difficulté à isoler ou à indiquer le coût réel de cette politique-là, comment ça se répercute directement sur le portefeuille des gens. Mais une chose est sûre, il se répercute pour vrai. Puis ce que moi j'ai présenté à un certain moment où est-ce qu'on va poser des questions, parce que dans un comité parlementaire, on est plusieurs témoins alentour d'une genre de table ronde, si on veut. C'est pas tout à fait une table ronde, mais vous avez d'un côté les conservateurs, vous avez aussi les bloquistes, puis vous avez de l'autre côté, vous avez le gouvernement, donc les libéraux. Puis eux, ils nous posent des questions après qu'on ait présenté notre témoignage d'environ 5 minutes.
Ouais.
Et dans le fond, ils veulent savoir essentiellement, après ça, c'est quoi nos positions, c'est quoi notre arrière-pensée sur ci ou sur ça, donc est-ce qu'on a des sources, etc. Donc, on se fait un peu cuisiner, gentiment, pendant à peu près une heure de temps. Puis éventuellement, la raison pour laquelle moi j'étais présent, c'est parce que, comme je le disais tantôt, le Québec a encore sa taxe carbone. Ça, on sait tous. Mais on comprend difficilement comment...
Mais c'est pas la taxe carbone, Nick, c'est la bourse carbone. C'est pas la même chose.
Je sais, mais on peut... La réalité, c'est effectivement, on peut appeler ça bourse du carbone, marché du carbone, tarification du carbone, taxe carbone, SPED. Mais moi, je pense que je suis le seul au Québec qui connaît tous les synonymes. Là, mais il y a un synonyme qu'on oublie, c'est que le Québec a finalement une taxe carbone industrielle. On n'a pas la raison pour laquelle la taxe carbone d'Ottawa ne s'attaque pas à nous, que ce soit pour les consommateurs ou au niveau des industries. C'est parce que notre modèle de taxe carbone fait les deux, essentiellement. Il refile un coût aux entreprises qui est ensuite refilé aux contribuables, aux automobilistes, ou aux camionneurs, aux agriculteurs, etc. Donc, mon point dans la question aux questions que j'ai répondu, c'est de démontrer qu'au final, les politiciens à Ottawa, ils prétendent que la taxe carbone industrielle fédérale s'applique pas aux consommateurs, qu'elle ne se répercute pas, qu'elle n'a pas d'impact, que ça ne va pas faire en sorte que les entreprises vont déménager leurs opérations dans un pays où il n'y a pas de taxe carbone. La réalité, c'est tout autre. Puis la raison, c'est parce qu'au Québec, on a justement ce modèle-là. En fait, on est la seule province à avoir un modèle double. Où est-ce que c'est comme un two-in-one, où est-ce qu'on taxe à la fois les entreprises, bon, du moins, on refile un coût aux entreprises avec des droits d'émission qu'ils doivent acheter, puis eux, ben, ils refilent ce coût-là ensuite aux consommateurs, puis ça présente environ entre 9 et 10 cents par litre d'essence, puis ça va augmenter au courant des prochaines années. Donc, bref, on était à Ottawa pour défendre ce point-là, puis dire essentiellement qu'on ne veut rien savoir de toute forme de taxe carbone. Bien sûr, ce n'est pas Ottawa qui va avoir un mot à dire sur ce qui va se passer au Québec, mais ça me permet de rappeler une chose. Le gouvernement fédéral impose une taxe carbone industrielle. Le jour où le Québec va se débarrasser de sa taxe carbone, il va possiblement devoir se battre pour éviter de tomber sous le régime fédéral. Comme c'était le cas auparavant. Donc, c'est un rappel qui est toujours nécessaire, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a quand même bien défendu la voix des contribuables qui ne veulent rien savoir de ces taxes-là, qui ne font que réduire notre pouvoir d'achat, font fuir les emplois, réduisent la productivité des entreprises et ne font rien pour le climat au final.
Écoute, je parlais avec Bernard Drainville la semaine dernière, je l'avais en entrevue, puis on posait, écoute, je pense que j'ai posé 300 questions à rafale, puis on est venu qu'à parler de la bourse du carbone. Bourse du carbone qui avait été pensée par les libéraux, qui a été par la suite mise en place par Pauline Marois et sa gang pour le court 18 mois où ils ont été au pouvoir. Ce que Bernard Drainville me mentionnait, c'est que si on décide un jour de sortir de la bourse du carbone au Québec, là, on va être encore plus dans le trou qu'on va l'être parce que c'est des milliards et des milliards qui ont été investis par les entreprises dans cette fameuse bourse du carbone. Et selon lui, on ne serait pas capable financièrement de rembourser ces entreprises-là. Donc, on est pogné avec ça jusqu'à la nuit des temps. C'est une catastrophe, ça.
Ben, c'est faux. C'est complètement faux. On n'est pas obligé de rembourser les entreprises pour plusieurs raisons.
On espère poursuivre, Nick?
Ben, écoute, il n'y a pas si longtemps, le journaliste Paul Journet de La Presse a dû lui-même se rétracter sur ces affirmations-là. Il a finalement donné raison à Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec en disant qu'effectivement, il n'y a aucune clause dans le contrat entre le Québec et la Californie qui fait en sorte qu'on serait obligé de dédommager les entreprises. Puis l'affaire, c'est que l'exemple qu'on ramène souvent, c'est l'Ontario. Parce que l'Ontario a été, pendant une très courte période, dans le même marché de carbone entre le Québec et la Californie. Puis, éventuellement, ils en sont sortis parce que Doug Ford, ben écoute, une horloge brisée donne la bonne heure deux fois dans la journée. Puis, Doug Ford, j'ai pas grand-chose de positif à dire, mais là-dessus, thumbs up, Doug Ford. Fait que, il a sorti l'Ontario de la taxe carbone. Malheureusement, il s'est ramassé avec la taxe carbone du Canada le lendemain sur le dos. Ben, que bon, c'est bel essai, j'imagine. Ouais. Sauf que, il y a eu des entreprises ontariennes qui ont effectivement essayé de poursuivre le gouvernement de l'Ontario. Et ils ont presque tous, je pense qu'ils ont tous échoué en fait. C'est extrêmement coûteux, extrêmement complexe de poursuivre le gouvernement dans les circonstances. Les règles sont assez claires à ce niveau-là. Puis le véritable manque à gagner, c'est ce que le gouvernement québécois va chercher en termes de revenus via la taxe carbone. C'est là qu'on dit qu'on aurait des pertes de revenus parce que essentiellement tous les revenus de la taxe carbone sont liés au fond vert, ou plutôt au fond à l'électrification et au changement climatique. Et ce fonds-là, essentiellement, ben, il est lié à un paquet de programmes de subventions. Donc, si tu coupes la taxe carbone, ben, tu gardes des subventions en cours, automatiquement, tu as un manque à gagner à quelque part. Donc, la solution est pourtant simple. Tu te débarrasses de la taxe carbone et tu te débarrasses du fonds vert ainsi que des programmes de subventions qui s'y rattachent. Notamment, il y a le fameux programme Rouler vert qui va prendre fin, de toute manière, là, le 1er janvier prochain. Mais sinon, il y a plein d'autres programmes qui bénéficient à des grosses entreprises. Puis moi, c'est peut-être l'élément qui me dérange le plus. Parce qu'au final, avec ce mécanisme-là, puis on le sait, là, je veux dire, les agriculteurs payent plus cher à cause de ça. Selon l'UPA, les agriculteurs du Québec ont payé pas loin de 550 millions de dollars en taxes carbone au cours des 10 dernières années. Mais c'est qui l'a assumé ce coût-là? C'est vous et moi. C'est essentiellement un coût qui est refilé à nous tous. La même chose pour les camionneurs, même chose pour les automobilistes. Cet argent-là qui va dans le fond vert, elle profite à qui? Oui, bon, à ceux qui s'achètent une voiture électrique, c'est bien beau. Mais ça profite aussi à des grosses entreprises. Il y avait entre autres là, Diageo, il y avait aussi ArcelorMittal, il y avait Air Canada, il y avait la Fonderie Horn. Bref, il y a plein de grosses entreprises, de multinationales qui ont pigé dans le fond vert, qui est alimenté par nos taxes. Puis on me dit que ben, ça serait dommage si on dépluguait ça. Je suis désolé, mais forcément, il faut faire un choix dans la vie. Puis oui, je pense que ça peut se faire à coût nul de se débarrasser de la taxe carbone et du fonds vert en même temps et des programmes de subvention qui s'y rattachent. Mais la crainte qu'on se fasse poursuivre elle est vraiment moindre. Puis si jamais ça arrive qu'on se poursuive, il y a plusieurs façons pour le gouvernement du Québec de s'en tirer sans payer une seule scène.
J'aime ça, surtout ça nous coûte pas une scène de plus. Budget Girard, Michel Girard est un peu comme toi, Nick. Vous êtes, toi et Michel Girard, les deux sur les jeux de d'or au party d'employés de la Coalition Avenir Québec. C'est votre visage qui est là, puis si on vous pitch le d'or directement sur le nez, ben là, vous êtes bullseye. Il parle de 4 milliards de plus qui ont été pigés dans nos poches, Michel Girard, dans sa chronique de samedi dernier. Il dit « Sous couvert de prévisions prudentes, Québec a récolté 4,1 milliards de dollars de plus que prévu dans les poches des contribuables cette année, lors de sa précédente année financière 2025-2026 qui se termine à la fin du mois de mars. Le gouvernement Legault nous a collectivement soutiré impôts, taxes et revenus divers de la colossale somme de 4,1 milliards de dollars, de plus que le montant prévu initialement par le ministère des Finances, Éric Girard, dans son budget 2025-2026, déposé il y a de ça un an. Juste au chapitre de l'impôt provincial sur les revenus des particuliers, le gouvernement caquiste est allé chercher dans les poches des contribuables québécois 2,1 milliards de dollars de plus que le montant initialement prévu par le ministre Girard. Avec la colossale ponction d'impôts additionnels, il s'ajoute un imposant supplément de 1,6 milliard en impôts perçus auprès des sociétés implantées au Québec et pour leur part, les taxes à la consommation. Donc, on parle de taxes de vente, taxes sur les carburants, des taxes sur les produits du tabac, le cannabis et les boissons alcooliques, ben, ont rapporté dans les coffres de l'État québécois quelques 442 millions de plus que les prévisions initiales. Et c'est pas tout, selon Michel Girard. Le gouvernement a récolté des revenus supplémentaires de 91 millions en droits, permis et redevances et un autre supplément de 96 millions en revenus divers. Et d'autre part, on a vu des recettes de cotisation pour des services de santé diminuer de 67 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle. Et l'impôt foncier scolaire tiré des comptes de taxes scolaires qui a baissé de 91 millions de dollars. Ils ont réussi à nous soutirer encore plus d'argent qu'ils pensaient et malgré tout ça, ils sont encore dans le trouble.
Oui, c'est le grand paradoxe. Comment on arrive à aller chercher des revenus supplémentaires constamment, même plus élevés que les projections établies, puis on arrive à quand même livrer des moins bons résultats que ce qui était prévu. Quoique cette année, c'est fou à quel point la semaine dernière, là, le monde se tapait dans le dos au ministère des Finances en disant « Hey, bon job! » Notre déficit, il est de 8,6 milliards au lieu d'être 9,5 milliards comme c'était prévu. Donc, tu sais, au final, il n'y a pas grand-chose à célébrer. Puis c'est drôle parce que là, on parle des revenus. Ce que tu as énuméré, c'est les revenus supplémentaires qu'on a eu l'année dernière par rapport à ce qui était projeté. Mais là, cette année, là, attention, là, ça risque d'être pire que ça, mais juste pour l'année 2026-2027, le gouvernement espère venir chercher dans nos poches 6 milliards de plus que l'année dernière. Donc, il espère aller chercher en revenus. Là, l'année dernière, on parle de revenus de 160 milliards. Bien là, ça va être 166 milliards pour l'année 2026-2027, dont 1 milliard de plus en impôts. Donc, c'est quand même pas pire. Là, c'est quand même 3,5 milliards de plus en impôts en deux ans. Sinon, on espère aller chercher 480 millions de dollars de plus en taxes sur les sociétés. On espère aussi aller chercher 650 millions de dollars de plus en taxes à la consommation. Donc, essentiellement, puis ça, il faut le rappeler dans le fameux budget qui semble peut-être le dernier budget d'Éric Girard, il y a toute cette notion d'un retour à l'équilibre budgétaire. Là. Il y a un plan pour éventuellement ramener l'équilibre puis mettre fin à l'endettement chronique qui est lié à nos déficits. Mais la réalité, c'est que ce plan-là, il est basé sur trois volets. Le premier volet, c'est espérer qu'on va avoir plus de revenus. Essentiellement, on va miser sur une forme de croissance économique puis on va espérer que les revenus subséquents vont être suffisamment importants pour qu'on soit en mesure d'éventuellement rembourser les déficits. D'un autre part, on espère, donc le deuxième volet, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur les dépenses. Puis ça, c'est peut-être un des rares bons points que je peux donner dans le dernier budget, c'est que d'habitude, au Québec, on est habitué à avoir des dépenses qui augmentent un rythme deux fois plus élevé que les revenus. Donc, ce qui donne en fait un déficit structurel qu'on observait depuis quasiment une vingtaine d'années au Québec. Là, pour la première fois, c'est un peu l'inverse. Pour la première fois, les revenus augmentent un rythme deux fois plus élevé que les dépenses. La dépense augmente quand même un certain rythme, même moins élevé que l'inflation, puis ça semble être contrôlé. Sauf que c'est facile de dire que tu vas contrôler les dépenses pour les cinq prochaines années quand il te reste six mois de pouvoir à faire. Tu sais, les projections valent ce qu'elles valent, surtout que dans à peu près deux semaines, il va y avoir un nouveau premier ministre qui va décider des nouvelles orientations du budget. Et ça fait en sorte que ce qui a été présenté la semaine dernière n'aura probablement plus aucune valeur. Puis en octobre, ben, on va peut-être avoir un nouveau gouvernement. puis tout ce qui a été présenté pendant le budget ou qui aura été changé par le premier ministre en cours de route va sûrement littéralement disparaître d'ici là. Fait que ces projections-là valent absolument rien. Mais le troisième volet d'Éric Girard, le fameux plan pour l'équilibre budgétaire, comme je disais, c'est « OK, on va aller chercher plus d'argent dans les poches du monde. » La deuxième, c'est on va essayer de contrôler les dépenses, mais en même temps, on n'a pas vraiment de plan pour couper davantage. On va essayer juste de contrôler les dépenses puis pas aller trop loin. Puis finalement, troisième point, c'est on espère que les négociations avec les Américains vont bien se faire. On espère que le fameux l'ACEUM ou l'ACEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, va être négocié rapidement, puis que ça va ramener de la certitude économique au Québec et que cette certitude économique va ramener de la croissance économique, puis que la croissance économique va ramener des revenus supplémentaires qui vont permettre de résorber les écarts qu'on a qui nous gardent éloignés de l'équilibre budgétaire. Bref.
Ils ont-tu fait une prière avec ça?
Ben, j'espère, parce que c'est pas mal, c'est ce qui manque dans l'équation pour que ça tienne la route. Mais oui, c'est essentiellement, c'est du gros wishful thinking, parce que bon, à voir comment Donald Trump gère ses négociations, qu'elles soient commerciales ou diplomatiques, je ne mettrais pas trop d'attente sur le fait que ça se négocie en bonne et due forme et que ça se complète cette année. Puis en même temps, il faut quand même le dire, le Québec, malgré, tu sais, c'est fou quand même qu'on mette beaucoup d'attentes par rapport à la CIUM, puis c'est vrai que ça nous affecte. On va pas se faire croire que les tarifs ne nous affectent pas, mais d'un
Nick, est-ce que tu es encore là? Bon, on va en profiter pour faire une courte pause. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon est avec nous. Je pense qu'on vient de rétablir le contact, mais on va en profiter pour faire une pause. Contribuable avec un S.ca pour information. On fait une courte pause et on revient.
Marceau le soir. Marceau le matin.
Nous, M. Drainville, bonjour.
Si vous êtes élu premier ministre, est-ce que vous allez mettre sur pause le projet de tram cité le temps que le financement du fédéral soit confirmé?
Le fédéral nous a dit qu'il paierait 40 % ses 3 milliards. À date, ils mettent 1,4. Bien, la différence entre 3 puis 1,4, il va falloir que le fédéral le confirme.
Mais vous voulez un pourcentage?
Bien...
Pour un gars de droite économique, un peu d'irresponsabilité à amener ça, là.
Ben non, le gars de droite économique veut s'assurer que quelqu'un va payer la facture en bout de ligne, là.
Parce que le projet, si, veux dire, si eux autres, ils payent pas leur part, c'est qui tu penses qui va payer?
c'est Bibi, ici.
Jusqu'à quel montant vous êtes prêt à aller?
Faut espérer que ce maudit projet-là va finir par se faire un coût raisonnable.
Ce maudit pas dire... projet-là?
Ben, c'est un projet, qu'est-ce que tu veux, qui fait jaser puis qui est controversé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Marceau, le matin. En semaine, 6h.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20 $, mais aussi de grandes marques. Forfait verre et montures, simple vision 70 $ et progressif 150 $.
Zoom, zoom, lunettes!
Chez Boulevard Lexus, obtenez le RX 350 Premium 2026 en location 24 mois à 2,9 % pour seulement 688 $ par mois avec acompte. Aussi, profitez d'une offre de 1 500 $ sur certains modèles. BoulevardLexus.com.
Depuis 100 ans, Junot et Frères est votre expert en peinture et décoration. Jusqu'au 23 mars, 50 % de rabais sur le deuxième galon Régal Select et peinture à plafond Benjamin Moore. Junot et Frères sur Pierre Bertrand et nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on fait économiser.
OK, ça change quoi?
Ben, vous pourriez épargner jusqu'à 600 $ en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah ouais?
Ouais. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Moi, je connais du monde en paysagement ou en excavation ou même des agriculteurs que ça fait des années qu'ils veulent avoir de l'équipement de construction John Deere, mais ils remettent toujours ça à l'année prochaine. Si vous êtes comme ça, vous autres aussi, on a une bonne nouvelle. Grâce à l'événement VIP pour les équipements de construction compact John Deere, il y a des rabais et plein d'options de financement. Arrête d'hésiter puis vis le présent. C'est le temps là, pas demain ni l'année prochaine. Parce que l'événement VIP de JLD Lagut, ton concessionnaire John Deere, c'est du 23 au 27 mars. Pour plus de détails, va sur jldlagut.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au Blackjack et à bien d'autres à Casino Day. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Envie de repartir au volant d'un nouveau Volkswagen ce printemps? Chez Laval Volkswagen, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles, avec un large inventaire prêt à partir. Votre prochain Volkswagen vous attend. Passez chez Laval Volkswagen dès aujourd'hui.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille, telles qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à 2 fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Pièces d'Auto Extra.com.
Le printemps est à nos portes, on peut donc commencer à rêver à l'été. Vous avez de grands projets pour votre cour? Confiez-les à Antonio D'Amico, paysagiste. Aménagement paysager, pose de gazon, patio, entrée d'auto, muret et bien plus. Antonio D'Amico, paysagiste.com.
Vous entendez ce silence? C'est le futur qui arrive et il se conduit. Voici le Polestar 4, VUS coupé 100% électrique au design des plus audacieux. En location à partir de 359 $ aux 2 semaines, à un taux de 0,99%, 0 $ de comptant initial. Disponible pour livraison immédiate, votre prochain véhicule vous attend déjà. Polestar 4, le VUS coupé de demain, dès aujourd'hui. Polestar Ville de Québec, votre destination 100% électrique.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Du 3 au 6 avril, célébrez Pâques en famille au Moulin des Jésuites de Charlebourg. Au programme, après-midi de tir d'érable, atelier de confection de pain à l'érable, veillée de danse traditionnelle québécoise et plus. Réservez votre place dès maintenant au moulindesjésuites.org.
Pouvez-vous lire les lettres au mur?
Je vois flou un peu. S-C-O-O-P.
Parfait, merci. Je vous remets votre prescription.
Apportez votre prescription chez Scoop Vision. Parce que chez Scoop Vision, voyez clair sans payer trop cher.
Votre salle de bain est restée figée dans les années 90 et vos planchers craquent plus que vos genoux. C'est le temps de rénover avant l'été. Passez chez Matériaux Audet Timbermart. Ici, on a du choix à la tonne pour tous vos projets. Matériauxaudet.ca.
Le printemps arrive chez Lévis Ford. Pour un temps limité, à l'achat d'un véhicule neuf, recevez un plan d'entretien gratuit, incluant vos 2 premiers changements d'huile et les permutations de pneus. Passez nous voir dès aujourd'hui chez Lévis Ford, les forts de Lévis.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on fait le podcast de Marceau Soir. Ensemble, Nick, ton essence coûte cher dans le secteur de Laval, toi.
Ah, écoute. Je mets du super dans mon char, fait que toi.
J'ai un de mes chums qui met du diesel, puis à chaque fois qu'il met de l'essence, c'est-à-dire à peu près aux 2 jours, parce qu'il roule pas mal, là, il m'envoie sa facture de diesel. C'est une catastrophe, là, le montant du prix qu'il paye, c'est épouvantable.
Moi, regarde, c'est simple, je regarde pas. je fais juste pleurer quand la facture arrive, quand le relevé de carte de crédit rentre au poste, là, mais pour le reste, c'est ça, Faut pas que je regarde. Puis je pense à tout le monde qui est prêt avec ces prix-là. Il n'y a pas juste nous deux. Tous les Québécois doivent composer avec l'augmentation des coûts. Puis écoute, je pense aussi aux chauffeurs de taxi. Je pense aux livreurs de Uber. Bref, tout ce monde-là, que le prix de l'essence affecte leur marge de revenus aussi. Là. Nous, ça affecte nos dépenses, mais eux autres, ça affecte leurs revenus et leurs dépenses aussi inévitablement. Fait qu'au final, on est tous dans le même bateau. Non, ça fait mal qu'on voit la station de service.
Écoute, ce matin, je me suis levé, j'ai fait le tour des stations-service. Le prix le plus bas du litre dans le secteur de Montréal était autour de 1,80 $. Ouais, c'est ça, 1,80 $ à peu près. Puis le plus haut, écoute, je ne sais pas où elle est, cette station-service-là. Ce serait, j'en reviens pas, je ne sais pas si c'est une blague ou non, mais ce serait sur la rue Saint-Zotique à Montréal, au 6705 rue Saint-Denis. C'était sur l'application GhostBody, là, 2,55 $.
Bon, éviter le secteur. éviter le secteur.
Deux piastres et 55 l'ordinaire. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui se prend une marge de profit extrêmement élevée. Là.
Lui, il veut pas avoir les clients. Lui, il veut que le monde aille ailleurs. Ouais. C'est comme, c'est... Ben, écoute, il n'y a plus de prix minimum sur l'essence. Hein, donc, ça permet aux gens, ben, en tout cas, ça n'a jamais empêché le monde de mettre l'essence plus cher que ce que c'était sur le marché. Mais en même temps, l'avantage de la disparition du prix, du prix plancher, puis ça, c'est drôle parce qu'au début, quand c'est disparu, nous, on célébrait ça comme une victoire, puis il y a bien du monde qui disait « Ah, c'est un coup d'épée dans l'eau », ben finalement, dans un contexte actuel de crise du coût de l'essence, ben il y a des entreprises qui sont en mesure de justement réduire leur prix puis être plus compétitifs, puis ça fait en sorte que c'est le contribuable ou plutôt l'automobiliste qui est gagnant là-dedans, mais on s'entend qu'il va falloir en faire beaucoup plus là, si on veut réduire l'impact sur le portefeuille du monde, parce que c'est pas à 10 cents près là, qu'on est là, présentement. Là, le prix de l'essence a augmenté quasiment de 40 sous dans les dernières semaines. Dans certains endroits, fait que, il va falloir en faire plus.
Est-ce que, puis tu sais, il y a des gens qui me parlaient la semaine dernière quand on parlait de la montée du prix de l'essence, puis ils disaient, mais tu sais, Yann, moi, j'ai pas de voiture, j'habite à Montréal, je me promène en métro, tout va bien. Il y a des gens à Québec aussi qui prennent le RTC qui disaient à peu près la même affaire, moi, mais moi, ça me coûte rien. Les amis, tout ce qui vous entoure prend du pétrole. Tout ce qui est dans votre maison est apporté avec du pétrole. Les camionneurs, ils chauffent pas à l'électrique, là, sont tous à essence. Tout va augmenter, votre épicerie va augmenter. Fait que oui, vous avez intérêt à vous intéresser au prix de l'essence et à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là, on nous disait, les experts nous disaient que d'ici dimanche, ça pourrait descendre de 13 cents. Quand je vois le prix de l'essence à Montréal puis à Québec, à Montréal, là, le 2,55, je pense que c'est une blague là, sur l'application GasBody, mais à Québec, c'était 1,79 $. Les gens commencent à trouver ça cher. Là.
Absolument. Puis, tu sais, 13 cents, on va espérer que ça baisse beaucoup plus que ça. Puis, comme tu le mentionnais, c'est pas parce que tu n'as pas de voiture que tu ne payes pas le prix de l'essence. Tantôt, on parlait de la taxe carbone. L'Institut du Québec a publié un rapport en novembre 2025. Ou est-ce qu'il mentionnait justement que si vous ne payez pas, même si vous n'avez pas de voiture, vous avez le prix de la taxe carbone, vous le payez via l'épicerie, entre autres. On parle d'un prix là, qui peut varier entre 60 et 80 $ par année, par individu. Mmh. Ce n'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais ça, c'est pour une taxe qui représente entre 9 et 10 cents. Si je te parle, par exemple, de la taxe provinciale sur les carburants qui est à 19,2 cents, ça aussi, ça a un impact au niveau du coût alimentaire. Au niveau de la production alimentaire, mais au niveau de son transport.
Ah oui.
Ça, ben c'est donc, même si vous vous promenez en Bixi puis que vous prenez le transport en commun, puis je veux dire, grand bien vous fasse, là, mais vous assumez quand même malheureusement l'augmentation de ces coûts-là. Puis ça, c'est sans oublier votre entreprise aussi, si vous êtes dans la transformation, dans le pétrochimique, peu importe. Ça aussi, ça a un impact sur la productivité de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Oui. Ça peut avoir un impact sur votre emploi aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'externalités à cette question des prix de l'essence là, qu'on oublie. Mais à la fin de la journée, c'est ça. Il va falloir peut-être qu'il y ait un réveil des gouvernements là-dessus parce que pour l'instant, au Québec, on dirait que la volonté de réduire le prix de l'essence n'est pas là. On sait qu'il y a eu des propositions, là, entre autres par Christine Fréchette et Bernard Drainville. Eux, ils veulent rembourser une partie des revenus supplémentaires qu'ils ont perçus avec les prix sur l'essence, là, avec les taxes sur l'essence, pardon, notamment en remboursant soit une partie de l'immatriculation des véhicules ou sinon, ils parlent d'envoyer un chèque. Puis là, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est hier ou avant-hier, Québec solidaire est aussi embarqué dans le bateau. Eux autres, ils ont dit bon, on voudrait rembourser peut-être à 40 % des Québécois là, un montant qui représenterait globalement 150 millions de dollars. Là. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont le faire, mais encore une fois, on parle d'envoyer des chèques. Mais c'est comme s'il n'y a personne, du moins à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a juste le Parti québécois qui a osé s'aventurer à dire on devrait peut-être retirer la TVQ ou la suspendre, ou on devrait retirer la double taxation. Puis sinon, il y a le Parti conservateur du Québec, eux, ils parlent carrément de la taxe carbone et de la taxe provinciale sur les carburants. Fait qu'il y a deux partis qui en parlent. Puis là, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que la semaine dernière, le budget du Québec a été déposé. Puis là, il y a un certain Charles Milliard du Parti libéral du Québec, que je ne connais pas assez encore, mais je vais lui laisser sa chance. Mais il a laissé entendre que c'était une bonne chose qu'il n'y ait pas de baisse de taxes sur l'essence, parce que ça aurait été populiste de faire une telle mesure. Tu sais, d'aider les automobilistes, apparemment, c'est populiste. Puis moi, ça me met en maudit, parce que présentement, vous avez plein de pays de l'Union européenne, des pays aussi avec des gouvernements sociaux-démocrates, qui parlent de réduire les taxes sur l'essence. Puis, tu sais, on se souvient, en 2022, on a eu la guerre en Ukraine. Ça a donné une situation similaire à ce qu'on voit dans les stations de service. Il y avait des stations où est-ce que le prix était à 2 $ le litre. Mais à travers le Canada, on a plusieurs gouvernements comme Terre-Neuve et Labrador, dirigés par des libéraux, le Manitoba, dirigé par des néo-démocrates, ou sinon, en Ontario, des progressistes conservateurs. Bref, toutes sortes de gouvernements qui ne sont pas nécessairement de droite populiste, là, qui ont réduit les taxes sur l'essence. Puis moi, aller plus loin encore. Le 1er avril 2025, Mark Carney vient à peine de devenir premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire la taxe carbone sur les consommateurs. Ça fait baisser le prix de l'essence de pas moins de 20 cents à travers tout le Canada, sauf au Québec. Est-ce que c'est un populiste ou c'est un libéral? Ben donc, à la fin de la journée, il faut arrêter de prétendre que baisser les taxes sur l'essence, c'est une méchante idée de droite quand la plupart des gouvernements de l'Occident qui ont appliqué une telle mesure jusqu'à maintenant, c'est plus des gouvernements de la gauche.
Pendant que l'épicerie augmente, t'as un Charles Milliard qui dit « Ouais, pour ce qui est de l'essence, là, ça serait populiste de descendre ça. Là, ça n'aurait pas de bon sens, mais... » Le prix à l'épicerie, les fruits et légumes, si tu augmentes l'essence et ça continue, ben ils vont être élevés, là, ces produits-là, là, nécessairement.
Oui.
C'est terrible. Ça... Hey, Nicolas Gagnon, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Le podcast sera disponible demain sur nos plateformes. Je te souhaite de passer une super de belle soirée. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis on se reparle sur nos ondes lundi.
Hey, le plaisir est partagé. On se reparle très bientôt. Puis on va espérer que d'ici la prochaine fois qu'on se reparle, qu'il y ait un peu plus d'ordre dans les finances publiques puis qu'il y ait un peu plus d'idées sur la table pour soutenir les contribuables.
Bonne soirée à toi, de même qu'aux auditeurs. Salut tout le monde. Bye-bye.
Salut.
Marceau, le soir. Le soir.